La démocratie dans nos petites municipalités, c'est primordial, c'est important, c'est le premier palier, la politique municipale du citoyen vers justement le politique, les services qui lui sont rendus, c'est les services les plus proches de lui. C'est pas toujours simple, on l'a même vu dans les derniers mois, beaucoup d'élus municipaux qui font face à de l'intimidation, à des comportements qui sont pas appropriés de la part de collègues ou de la part de citoyens. Ça joue rough en bon français dans le monde municipal de ce temps-ci. Les réseaux sociaux aident pas parce que c'est pas juste du 8 à 4, ça se poursuit en dehors des heures de travail, la fin de semaine, ça se poursuit aussi dans un endroit où qui est notre petit chez nous, tu sais, les réseaux sociaux, notre page Facebook, on a nos enfants, nos amis, nos cousins, nos proches. Et là, ben, y a des gens qui viennent nous insulter, qui viennent commenter nos publications. En tout cas, c'est pas facile, le monde municipal, et justement, particulièrement dans les petites ruralités. Et là, plus tôt cette semaine, ben, je me promenais sur Facebook et j'ai vu Madeleine Lefebvre, qui est conseillère, on la connaît comme conseillère à la ville de Maniwaki, qui a partagé un article du Devoir qui parlait, c'est la difficile démocratie en ruralité. Je trouve ça bien intéressant comme idée de départ pour une conversation. Et donc, j'ai interpellé Madeleine. Elle est avec moi dans mon bureau. Madeleine Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Et c'est pas parce que vous avez partagé l'article que vous êtes avec nous. Vous avez aussi des connaissances. Vous êtes une professionnelle dans ce milieu-là puisque vous êtes professeure en développement des collectivités à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et vous avez un doctorat en sciences sociales, développement des territoires et spécialisé en politique municipale dans les petites municipalités. Donc, ça tombe exactement dans votre champ de compétences. Premièrement, cette lecture-là, peut-être nous en faire un petit résumé. Ce que vous avez pensé de cette lecture-là?
Bien, je trouve ça vraiment intéressant que une citoyenne ait décidé d'envoyer une lettre ouverte, en fait, une lettre d'opinion au Devoir, faisant part de suggestions, de certains questionnements par rapport à la vie démocratique dans son milieu. Puis, ça soulève des questions, des réflexions qui reviennent de temps à autre dans les médias. Fait que ça relance certains débats, dont celui lié aux fusions ou à la collaboration entre les municipalités, si on veut. Fait que oui, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pour ça que je l'ai partagé. Puis, je te remercie de l'invitation pour venir en discuter.
Vous avez parlé des fusions, c'est dans l'air du temps. Je parlais avec certains élus qui, moins sur la place publique, mais de plus en plus, je dirais, commencent à parler des fusions. Il y a quelques années, c'était beaucoup les ententes intermunicipales. On parlait d'ententes intermunicipales, maximiser le nombre de services qu'on peut faire en commun sans faire une fusion. Même le mot fusion, les gens n'aiment pas beaucoup ça. C'est plus le mot regroupement.
Absolument.
La fusion, ça fait peur parce qu'on pense perdre notre identité. Même si moi, je viens de Gatineau, ma blonde vient de Hull. J'avais des amis qui venaient d'Elmer. Puis on appelle encore ça Hull, Gatineau, Elmer, Maçon-Angers, Buckingham.
Oui, on a conservé ça, absolument. Dans toutes les villes qui ont été fusionnées de façon, comme on dit, forcée ou fortement excitée au début des années 2000, oui, on a notre sentiment d'appartenance.
Demeure.
Oui.
Et on fait pas ça pour faire des économies d'argent non plus, parce que des fois on fait miroiter, en tout cas vous me direz, mais souvent on fait miroiter des économies, mais c'est plus, moi je vois ça comme une colocation au cégep. Je peux avoir mon appartement avec ma caisse de bière puis mon épicerie, puis j'aurai plus rien à faire. Ou on peut partager l'appartement, partager l'épicerie, partager la caisse de bière, puis il nous reste l'argent pour aller voir un match du Canadien, aller au cinéma, aller apporter notre copine au restaurant. Mais c'est vrai, une marge de manœuvre. Là.
Ton analogie est intéressante. Puis c'est ça, l'idée du regroupement ou de maximiser nos ressources, comme le dit la citoyenne qui a fait la lettre ouverte dans le Devoir, c'est une des idées qu'elle amène, parce qu'elle amène en fait quatre suggestions, des propositions pour améliorer la démocratie en ruralité. Elle le constat qu'elle fait, c'est que, bon, elle demeure dans une municipalité qu'elle dit de 230 habitants. Puis je pense que c'est important de rappeler que 83 % de nos municipalités au Québec ont moins de 5000 habitants et la majorité parmi ce 83 %-là ont moins de 2500 habitants.
C'est ce qu'on connaît chez nous.
C'est ce qu'on connaît chez nous, mais il faut savoir que c'est le portrait du Québec municipal, là, c'est ça. Okay. La majorité de nos élus sont dans de très petites municipalités. Donc, elle faisait le calcul, puis elle disait, bien, ça fait beaucoup d'élus pour peu de population et pour peu de ressources financières, matérielles, etc. Donc, elle se disait, est-ce que ça aiderait pas l'efficacité et le professionnalisme elle disait, trouver des façons innovantes pour regrouper des conseils municipaux. Elle n'a pas... La dame en question n'a pas spécifié qu'est-ce qu'elle entendait par solution innovante. La question est lancée, mais il demeure que c'est c'est dans l'air, c'est dans les questionnements récurrents depuis une trentaine d'années, on pourrait dire depuis les fusions forcées là, de certaines villes au début des années 2000. Est-ce qu'on ne devrait pas poursuivre dans cette voie-là, sachant qu'il y a plus de 1100 municipalités au Québec, qu'elles sont majoritairement, comme on le disait, très petites, et nos ressources sont limitées, comme ta gang de colocs, là, mm-hmm. on pourrait... possiblement, en fait, investir ailleurs, se payer autre chose, développer autre chose si on mutualisait certaines
c'est
ressources.
C'est d'ajouter des services. Dans le fond, c'est qu'on en a plus pour notre argent. C'est simple comme ça.
Fait que du point de vue de l'utilisation efficiente des ressources, la question se pose. Mais du point de vue aussi, si on revient à son questionnement aussi par rapport à la qualité des élus qu'on a.
230 personnes dans une municipalité, c'est pas 230 politiciens, là.
Non, exactement. C'est pas tout le monde qui est intéressé ou qui aurait ni l'intérêt ni les compétences nécessairement pour aller en politique municipale. Mais là, il y a un beau débat de valeurs ici, là, parce que ce qui est intéressant avec la politique en démocratie, puis principalement, pas principalement, à tous les paliers, mais on va s'intéresser au palier municipal, c'est que c'est accessible à tout le monde. Hein. Mm-hmm. C'est l'idée de la démocratie. Tout le monde peut se présenter. On n'a pas besoin d'être diplômé en quoi que ce soit.
Pas d'examen, pas de...
expert en quoi que ce soit. Non, on est nous-mêmes, puis on se présente nous-mêmes pour qui on est, notre vision, ce qu'on veut faire, puis... et à nous de convaincre nos concitoyens de voter pour nous. Mais il y a d'un côté cette belle valeur-là, qui est l'accessibilité, la démocratie, mais il y a aussi l'idée, est-ce qu'on peut avoir une certaine compétence dans ce qu'on fait? Puis c'est ce qu'elle soulève, elle soulève cette question-là de la compétence dans son biais, dans le devoir, la dame en question. Et puis, et là, on peut se poser la question, mais si on avait un certain regroupement des conseils municipaux, est-ce que ça ne peut pas nous donner une masse critique pour aller chercher davantage de candidats, de sorte que les citoyens aient vraiment un choix? Parce mm-hmm. qu'on s'entend, là, aux élections municipales au Québec, la plupart des maires et mairesses, puis nombre de conseillers et conseillères sont élus par acclamation. Il n'y a pas vraiment
on
choix.
On a Higginsud ici. L'entièreté du conseil municipal par acclamation. Le maire et tous les conseillers par acclamation. D'ailleurs, ce sont tous des hommes, mais ça, c'est... Mais c'est par acclamation.
Oui. Fait que ça, ça fait figure, là, mais il y en a combien comme ça, des cas de figure comme ça, à la grandeur du Québec, il y en a énormément. Fait que c'est un peu ça aussi. Oui, le regroupement ou la collaboration pour essayer de rendre plus efficace notre gestion financière, administrative, mais aussi notre démocratie pour qu'elle soit peut-être en meilleure santé. Fait que mm-hmm. c'est un autre point de vue à toute cette réflexion-là.
Puis une question aussi d'aller, ben, quand on parlait d'aller chercher de la compétence, les salaires. Tu sais, mm-hmm. parce qu'on parle souvent aussi qu'on veut rajeunir un peu nos conseils municipaux, avoir plus de femmes et des gens plus jeunes. Puis on veut pas faire d'âgisme, mais on veut avoir une multitude de gens, en fait, de toutes les classes. C'est le meilleur portrait d'un conseil municipal, c'est ce qui représente le mieux ta population. Donc,
oui,
des jeunes familles, c'est ça. Mais avec des salaires, c'est pas des salaires, on peut pas survivre avec un salaire de conseiller dans une petite municipalité à 10-12 000 $ par année. C'est impossible. Donc, et on peut pas payer avoir 7 élus qui gagnent 50-60 000 $ chacun non plus. C'est impossible.
C'est ça, c'est toute la question de la prof. On dit qu'on veut que nos élus soient professionnels, mais en même temps, c'est pas un emploi être un élu dans les petites municipalités au Québec. À part parfois le maire ou la mairesse qui sont des postes à temps plein, reste que c'est des tâches à temps partiel. Puis on n'a pas toujours non plus ni la population ni les tâches pour les occuper à temps plein.
C'est ça.
Mais reste que, comme tu dis, la compensation financière, si on parle pas de salaire, là, mais la compensation financière, elle varie beaucoup hein, d'une municipalité à l'autre, mais somme toute, puis ça c'est démontré, là, les chiffres le montrent, c'est pas très élevé et très attrayant pour quelqu'un qui doit travailler à temps plein ou s'occuper, être proche aidant, s'occuper de sa famille, peu importe, que d'autres mm-hmm. occupations, c'est pas super alléchant.
On réduit le bassin de candidats qui pourraient être intéressés.
Voilà.
C'est pas une avenue qui est intéressante.
Qu'on
là.
Pourrait peut-être bonifier s'il y avait moins, effectivement, de postes ouverts. Fait que ça, c'est une des propositions qu'elle fait. Mais moi, j'aimerais ça qu'on discute aussi d'une autre proposition.
Allez-y.
Que j'ai trouvée super intéressante. Elle parle beaucoup de l'accès au débat. Puis je pense que c'est lié à ce qu'on vient de dire. Parce que comment on peut intéresser les gens à la politique municipale et donc peut-être avoir davantage de candidatures plus diversifiées, donc améliorer notre santé démocratique, comment on peut s'y intéresser si les débats politiques sont toujours faits à huis clos? T'sais, elle disait, dans ma municipalité, les caucus là, au conseil municipal, quand ils discutent des dossiers, ça se fait à huis clos.
Toujours.
Ensuite, on arrive au conseil municipal... Et là, on...
Tout est décidé. Tout,
ben, on présente ce qu'on a décidé, puis on présente...
Il n'y a pas de chicane, tout est beau, tout est liché.
À l'unanimité.
À l'unanimité, c'est encore mieux. Puis ça, d'ailleurs, c'est une question, on pourrait y revenir à l'unanimité, mais je trouve que ça perd un peu de sa raison d'être quand tout est adopté à l'unanimité.
Ben, c'est ce qu'elle disait. Elle dit, est-ce que j'ai voté pour ça, moi? Voyons, les conseillers, tout le conseil municipal est toujours d'accord sur tout.
Tout.
Mais c'est parce que les débats ont été faits avant. Mais elle nous invite, par son biais, cette dame-là, à peut-être penser à d'autres façons d'impliquer les citoyens dans les débats. Et ça, tu sais, dans ma thèse de doctorat, par exemple, il est ressorti comme résultat que les élus municipaux dans les petites municipalités au Québec, même s'ils se disent prioritairement en politique municipale pour écouter leurs concitoyens puis être leur porte-parole, donc pour être le porte-parole, il faut d'abord écouter les gens. Bien, en fait, dans les faits, quand ils vont s'informer de ce que les gens pensent, c'est quoi l'opinion des gens sur certains dossiers, ils vont surtout s'informer auprès de citoyens qu'ils connaissent.
Mm-hmm.
Fait que c'est peut-être un réflexe humain, vous allez me dire, mais quand on est en politique municipale, ça pose des questions sur, mais OK, mais tu sais, comment, dans le fond, les élus vont prendre leurs décisions pour plaire aux citoyens s'ils ne savent pas ce que veulent vraiment les citoyens, puis mm-hmm. comment les citoyens peuvent être interpellés si on les invite jamais à prendre position sur certains dossiers qui
pourraient être intéressants. Il manque d'informations, parfois, les citoyens aussi. Parce oui. que, justement, on n'a pas tout le fin détail. Fait que les citoyens veulent proposer des choses. Puis là, les élus, ah, ben, ça ne peut pas marcher de même pour telle raison. Ah, mais si j'avais toute l'information, peut-être je pourrais arriver avec une proposition qui a de l'allure. Mais là, j'y vais avec ce que je sais.
Il y a vraiment plein de méthodes, de façons de faire davantage de participation citoyenne, de promouvoir la participation citoyenne au sein des municipalités. Puis, on ne peut pas dire qu'on est champion là, de ça au Québec, dans le Québec rural. Il y a des municipalités championnes. Là, je veux pas les négliger ce fait-là. Il y en a. Il y a des municipalités qui essaient, comme là, tu nous parles de Bois-Franc, tu sais, qui essaient d'ouvrir, tu sais, qui a ouvert son mm-hmm. débat public avec des résultats peut-être mitigés. Mais il y a lieu de se poser la question.
Mais c'est de la transparence dans tous les cas.
Oui, mais comment on peut faire autrement pour, c'est ça, ouvrir le débat de façon constructive, efficace, puis de façon à ce qu'on ait une participation plus importante de tous les citoyens.
As-tu une piste de réflexion ou on n'est pas rendu là encore?
Bien, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Des cafés sur certains sujets, par exemple. Sortir peut-être un peu aussi de l'hôtel de ville pour que les élus se rendent à différents endroits. Profiter des rassemblements citoyens qui ont lieu dans la région pour aller sonder la population sur différents enjeux, des choses comme ça.
Ouais, ouais, ouais.
Si, comme il le dit aussi dans sa lettre, le caucus pourrait être... le caucus à huis clos, là, pourrait être réservé pour certains dossiers qui méritent peut-être un huis clos avant ou entièrement, avant le débat public ou entièrement, mais cibler certains dossiers où là... une fois par mois, on va traiter d'un dossier, par
plus
exemple.
Sensible.
Ouais, plus, ben, et avec le public.
OK, OK, OK.
Puis de façon, ça peut être animé aussi de façon à ce que ça ne dure pas trois heures interminables.
Mm-hmm.
Ça peut être animé de façon plutôt dynamique pour que tout le monde soit satisfait et que ce soit vraiment des vraies consultations. Pas on vient vous présenter ce qu'on veut faire, dites-nous ce que vous en pensez.
On ne veut pas entendre ce que vous, c'est ça, ou à peu près c'est... pas entendre ce que vous avez à dire. Là.
Oui, c'est ça. Une vraie, parce qu'encore là, il n'y aura personne qui va vouloir participer si on sent que l'exercice est bidon. Ouais. Fait qu'il y a plusieurs choses, on pourrait en discuter, mais il y a plusieurs avenues qui peuvent faire en sorte qu'on ouvre le débat, qu'on intéresse davantage les gens à la politique municipale et qui fait en sorte que quand c'est le temps d'avoir des candidatures, ben peut-être qu'on va avoir plus de diversité.
Eh bien, Madeleine Lefebvre, on vous recevait aujourd'hui. Vous êtes conseillère à la ville de Maniwaki, mais vous êtes aussi professeure en développement des collectivités du côté de l'Abitibi-Témiscamingue à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Vous avez aussi un doctorat en sciences sociales, développement des territoires et spécialisé donc en politique municipale dans les petites municipalités. C'est en plein dans votre champ de compétences. Merci beaucoup, c'était vraiment agréable comme conversation, puis hâte de voir la suite des choses.
Bien, merci à toi.
Déjà la fin de l'émission qui est à notre porte. Martin Caron lui parle dans un instant. Il est président général de l'Union des producteurs agricoles du Québec suite à une entente de principe intervenue lundi entre l'Union et le gouvernement du Québec. Je pense que c'était attendu de la part de nombreux agriculteurs cette entente. Encore faut-il que ça comble les besoins de ces agriculteurs. C'est le sujet de notre conversation avec Martin Caron dans un instant.